7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florelle Mandat.
Bonjour à tous, vous écoutez 7 milliards de voisins, une émission consacrée aujourd'hui à la natalité en Chine. En effet, 40 ans après la mise en place de la politique de l'enfant unique, la Chine pourrait bien supprimer tout contrôle des naissances. Un nouveau code civil devrait être adopté par l'Assemblée nationale en 2020, mais la partie sur la taille des familles pourrait entrer en vigueur dès cette année. D'ici 2050, 487 millions de Chinois auront plus de 60 ans, contre 240 millions actuellement selon la sécurité sociale chinoise. L'an dernier, en 2015, le gouvernement avait déjà assoupli la politique de natalité sans obtenir le résultat escompté. Parmi les conséquences, on note un déséquilibre entre les femmes et les hommes, le vieillissement de la population. Alors, la fin du contrôle des naissances pourra-t-il donner l'envie aux femmes d'avoir plusieurs enfants? Quelle politique nataliste possible pour la Chine? Nous décryptons tout cela ce matin avec nos invités. Emmanuel Linco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de la Chine. Merci d'être avec nous. Nous sommes également en duplex depuis Dijon avec Yves Boquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe de la Chine à l'Université de Bourgogne. Merci d'être en ligne avec nous également. Un peu plus tard dans l'émission, nous serons au téléphone avec Catherine Capdeville, anthropologue à l'INALCO, spécialiste de la société chinoise. Et vous, les voisins, les voisines, que vous inspire cette question de la natalité en Chine? Appelez-nous dès maintenant pour réagir sur cette réforme du contrôle des naissances. Dites-nous ce que vous en pensez. 33 1 84 22 71 71. Sur WhatsApp également, avec des messages écrits que vous nous laissez.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
La politique de l'enfant unique a été mise en place en 1979. Elle était destinée à éviter la surpopulation du pays le plus peuplé du monde. C'était au moment où la population chinoise atteignait 1 milliard d'habitants. Emmanuel Linco, pouvez-vous nous rappeler le contexte du pays à cette époque?
En fait, c'est une décision prise en 1979 par le successeur de Mao Zedong, savoir donc Deng Xiaoping, qui tire à sa manière la sonnette d'alarme, c'est-à-dire que la Chine, quelques années plus tôt, au début des années 50, avait déjà 600 millions d'habitants. Mmh. Et puis, moins d'un demi-siècle plus tard, on a dépassé le milliard. Donc, oui. Catastrophe, donc asymétrie entre les ressources disponibles dans un pays, rappelons-le, très pauvre, hein, mm-hmm. c'est-à-dire donc qui est sorti de surcroît de crises à répétition et notamment la révolution culturelle, donc un pays absolument exsangue, donc nécessité effectivement de normaliser les choses et d'imposer d'une manière extrêmement drastique cette politique. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. L'Inde s'y était essayé aussi à sa manière, mais jamais d'une manière aussi
drastique,
qui avait pris une telle ampleur.
Au moment où la Chine s'ouvrait à l'économie mondiale également.
Exactement, exactement. Et bon, alors il faut savoir que cette politique de l'enfant unique n'a pas été appliquée d'une manière uniforme partout.
Oui, on va revenir sur cela évidemment, parce que c'est ça qui est intéressant de noter par rapport à tout ce qu'on s'imaginait. Ouais. Il faut aussi rappeler qu'en 79, la mise en place fut extrêmement violente. Yves Boquet, vous nous le confirmez?
Oui, en 1979, bon, là, ça a été très brutal. En même temps qu'il y a eu un énorme changement politique et économique en Chine, avec l'ouverture du pays sur l'extérieur, après toutes les années de fermeture du pays sur lui-même à l'époque de Mao, en particulier dans les années 60.
Et en cas de non-respect, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui pouvait arriver?
Une des façons dont on a amené les Chinois à réduire le nombre d'enfants, c'était en imposant un certain nombre de sanctions. Il y avait un système où les gens qui s'engageaient à avoir un seul enfant, qui acceptaient d'être stérilisés avaient des avantages nombreux, par exemple avantages accès privilégié au logement. Mm-hmm. Ils avaient également pour les nourritures rationnées, ils avaient des coupons de rationnement supplémentaires s'ils avaient un seul enfant, mais ils en avaient moins s'ils dépassaient la norme. Et plus ils avaient d'enfants, moins ils avaient de coupons de rationnement. Donc ça, c'était très très efficace pour contraindre les gens, en particulier en ville, contraindre les gens à réduire leur fécondité. Parce qu'un appartement à Shanghai ou à Pékin, bon, c'était pas évident.
Ouais, ouais. Et on parle aussi d'exil. Il y avait aussi une politique d'exil de 79 à 85, c'est ça?
Alors, ce qu'il y a eu, c'est que c'est une vieille tradition qui date de l'époque de Mao, c'est des gens qui avaient été renvoyés dans les campagnes au titre de l'égalité entre les villes et les campagnes, qui était un des slogans majeurs du maoïsme, et puis également une punition politique d'envoyer dans les campagnes des gens des villes qui étaient peut-être un petit peu trop remuants politiquement.
Ouais. Et vous le disiez, Emmanuel Linco, concrètement, dans les faits, toute la population chinoise n'était pas logée à la même enseigne. Il y avait comme des exceptions.
Alors il y avait des exceptions et très vite en tout cas le gouvernement central a donné un peu du lest parce que évidemment c'était des mesures très impopulaires.
Donc du lest. Hein.
Véritablement parce que si vous voulez à cette époque, si l'on recontextualise encore les choses. Au début des années 80, l'écrasante majorité de la population est rurale.
Oui.
Donc pour ne pas se mettre à dos la population rurale, on a été un peu plus souple, in fine, dans le monde rural que dans les villes. Et surtout, vis-à-vis des minorités ethniques, au nombre de 56, cette politique ne s'est pas systématiquement appliquée.
Et puis c'était aussi les minorités, comme vous le dites, qui ne souhaitaient pas non plus aussi avoir un seul enfant.
Absolument, et notamment les minorités de confession musulmane, ou bien les Ouïghours dans le nord-ouest du pays, dans la province du Xinjiang.
Oui, oui. Et donc ce qui expliquait aussi une frustration, c'est ça ?
Il y a eu sans doute des frustrations effectivement engendrées par cette asymétrie dans l'application de la politique entre la majorité Han et un certain nombre de ces minorités. Je pense effectivement que le ressenti d'un certain nombre de familles ouïghours à l'encontre des Han est pour partie ou réciproquement plutôt, est en partie lié justement à ce différentiel entre la majorité Han et ses minorités.
Du coup, on imagine que dans les régions rurales, le taux de natalité était ou est encore plus élevé que vu qu'il y avait ces dérogations, ce lest, comme vous le disiez, Yves Bocquet.
Oui, tout à fait. Les régions où il y a la fécondité la plus forte, jusqu'à une date récente, c'était les régions comme la région Ouïghour, le Xinjiang qui est à l'ouest. Mais aujourd'hui, ce sont surtout les régions plus rurales, les provinces un petit peu en retard économiquement, des provinces loin des côtes, des provinces comme le Guizhou, par exemple dans le sud-ouest, qui sont des provinces où la fécondité est un petit peu en dessous de 2, alors qu'elle est beaucoup plus basse dans d'autres régions. Alors il y avait de grosses différences, parce que dans les campagnes, très, très vite, dans la tradition confucéenne, il faut avoir un fils,
oui,
avec un seul enfant. Ce qu'on a fait, c'est que dans beaucoup de provinces, alors, on a autorisé les gens à avoir un deuxième enfant si le premier était une fille.
Oui.
Voilà, parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est le fils qui garde le nom de famille, c'est le fils qui s'occupe des parents quand ils sont vieux, alors que la fille, on l'élève pendant 18 ans ou 20 ans, et même plus longtemps, parce qu'avec Sun Mao, on a décidé pour retarder les naissances de retarder l'âge officiel des naissances. À la fin de la période maoïste, les naissances ont été... L'âge légal du mariage a été retardé, donc ça veut dire qu'on était obligé de garder la fille plus longtemps.
Ouais.
Donc les paysans voulaient un garçon, donc on a donné du lest, comme disait mon collègue.
Jusqu'à ce qu'ils aient un garçon,
voilà.
Ouais.
Alors en fait, on parle de la politique de l'enfant unique, en fait c'était les politiques de l'enfant unique, parce qu'il y avait une directive générale au niveau national, mais en fait l'application était un petit peu différenciée selon les provinces. Il y avait les gouvernements provinciaux, bien sûr sous le contrôle du Parti communiste, avait la possibilité de jouer un petit peu. Une province comme le Sichuan n'avait pas forcément la même politique que le Hunan ou une autre province.
Du coup, les statistiques, on peut se demander si les statistiques de la Chine sont vraiment très fiables, puisque finalement, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a une...
C'est toujours le problème, de toute façon, avec n'importe quel État communiste. Hein, il faut toujours être extrêmement vigilant, c'est vrai aussi pour les indices économiques. Bon, une chose est certaine, et autre phénomène et dommage collatéral lié justement à cette politique de l'enfant unique, nombre d'enfants n'ont pas été déclarés. C'est ce que l'on appelle les rarites, littéralement, donc les enfants noirs. Non pas parce qu'ils sont noirs de peau, évidemment, mais parce qu'ils ont été considérés comme clandestins en définitive, et on évalue à une quarantaine de millions d'enfants non déclarés, ce qui est tout à fait considérable.
C'est
la moitié
énorme.
D'une France.
Oui, c'est ça, c'est énorme. 7 milliards de voisins aujourd'hui, une émission consacrée à la politique nataliste en Chine. On en parle avec nos invités pour le moment. Pause musicale.
我们哭了，我们笑着， 我们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么。因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪如雨，因为不想分离。因为刚好遇见你，留下十年的期许，如果再相遇，我想我会记得你。笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么。因为我刚好遇见你，留下足迹才美丽，风吹花落泪。
Just met you, Lee Yugang, dans 7 milliards de voisins. Bienvenue si vous nous rejoignez avec nos invités Emmanuel Linco, Yves Bocquet et tout à l'heure Catherine Capdeville. Au téléphone, nous parlons aujourd'hui de la fin des contrôles des naissances en Chine prévus pour 2020. 33 1 84 22 71 71. Si vous souhaitez réagir avec nous sur cette question, Emmanuel Linco, quelles étaient les conséquences de la politique de l'enfant unique? Des amendes et bien plus encore et bien plus graves?
Ah, bien plus grave, c'est-à-dire que M. Wang, par exemple, était envoyé dans le nord et Mme Wang dans l'extrême sud, donc on séparait la famille. Non, ça a été absolument catastrophique. Autre volet également qui montre la rigidité du système et cette politique hyper coercitive, c'est l'avortement forcé également de femmes. Hein. On évalue en moyenne, alors là aussi, on ne sait pas si ces chiffres sont toujours très fiables, mais tout de même, 13 millions d'avortés par an en moyenne.
Mais selon une ONG américaine.
Absolument énorme.
Et énorme. Au huitième mois, c'est ça?
Et au huitième mois de surcroît. Oui,
avec des rafles, etc. Des
tout
femmes dénoncées, toute cette politique. Du coup, ce qui a été un atout pour la Chine, pour faire son entrée dans le club des grandes puissances économiques, autrement dit empêcher donc, l'explosion démographique que ses dirigeants redoutaient avec cette politique, c'était le but, eh bien, cet atout dessert considérablement le pays aujourd'hui, Yves Bocquet.
Oui, tout à fait. Le pays, maintenant, commence à manquer un petit peu de main-d'œuvre. La main-d'œuvre jeune est moins abondante qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Et donc, le pays est en train de passer très vite dans une situation qui est celle que connaît déjà le Japon et que connaît la Corée.
Et que la Chine regarde, justement.
Et la Chine commence maintenant à chercher à faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Il y a des accords qui ont été signés récemment avec des pays comme les Philippines, qui est un pays très jeune, pour commencer à faire venir, par exemple, des enseignants philippins enseigner l'anglais en Chine, parce qu'on manque de professeurs, on manque de main-d'œuvre de façon générale.
Oui, on manque de la population active, Emmanuel.
La société chinoise est une société très, très hybride, en fait, dans le sens où elle cumule à la fois les atouts et les difficultés d'une société riche, surdéveloppée, et en même temps encore un pays du tiers-monde, si vous voulez.
Oui, elle n'est pas encore riche.
C'est ça. Et d'après la formule consacrée, elle risque de devenir vieille avant de devenir riche.
Ça, on le voit partout.
C'est-à-dire qu'elle cumule, encore une fois, d'une manière, je dirais, extrêmement clivante, un problème de pays riche, c'est-à-dire qui va payer nos retraites, avec le non-renouvellement, a priori, des générations futures.
Donc ça, ce sont... concrètement les difficultés que va provoquer en fait cette situation dans les décennies à venir.
Certainement, et on pourrait assister, alors on n'en est pas encore là, mais effectivement quand on va au Japon, on voit que de plus en plus il y a des migrants d'origine étrangère, à Taïwan aussi, qui peut être un laboratoire extrêmement intéressant de ce point de vue-là, et on le voit notamment par la présence de femmes indonésiennes, donc musulmanes, et tout cela à terme, risque de changer les équilibres que l'on connaît.
Oui, oui. Quelques chiffres, c'est important de donner des chiffres aussi. L'année dernière, le nombre d'enfants nés en Chine a chuté de près de 2 millions par rapport à 2017. C'est l'indice le plus bas depuis la déclaration de la République populaire en 1949. 15,23 millions de bébés sont nés en 2018, alors que la population totale atteint 1,4 milliard d'habitants officiellement. C'est bien ça.
C'est bien ça. Et alors, si l'on compare justement cette réalité démographique chinoise à l'un des grands voisins de la Chine, l'Inde, clairement, l'Inde, d'un point de vue de sa population, va dépasser la Chine d'ici
c'est
peu.
C'est ça. Oui, oui.
Voilà. Et symboliquement, ça va être important parce que la Chine, par exemple, est membre du Conseil de sécurité de l'ONU.
Oui,
on a entendu le fait qu'elle est le pays le plus peuplé du monde. L'Inde voudrait bien y être aussi. Et l'Inde aura d'autant plus de raisons de demander un siège au Conseil de sécurité quand elle sera le premier pays du monde par la population.
Oui, oui. Est-ce que c'est pour ça aussi, peut-être justement, ces conséquences que constate la Chine aujourd'hui, que cette politique n'a pas été appliquée, ben voilà, vous le disiez, enfin, ça un petit peu en Inde, ou au Pakistan aussi, ces pays qui connaissent une croissance exponentielle et qu'on compare très souvent avec la Chine.
Au Pakistan, vous avez un pays musulman qui est dans général, dans les pays musulmans, il y a une fécondité beaucoup plus forte. On voit les pays aujourd'hui qui ont les plus fortes fécondités au monde sont tous des pays musulmans. C'est des pays du Sahel, ce sont des pays comme le Pakistan, comme le Bangladesh, qui ont des fécondités beaucoup plus fortes que ce qu'on a en Inde. On est à 2,7, 2,8 enfants. Alors qu'en Inde, on est à 2,2, 2,3, donc on se rapproche du 2,1 qui est le seuil de renouvellement des générations. Et puis également au Moyen-Orient, il y a pas mal de populations qui ont beaucoup d'enfants. Hein, donc l'islam, les pays musulmans n'encouragent pas la réduction des naissances. Hein.
Mm-hmm. Il y a bien sûr une réalité religieuse que vient d'évoquer
bien
justement
sûr.
Mon collègue, qui influe évidemment sur une politique, mais aussi la nature même du régime politique, qui est fondamentale. C'est-à-dire que malgré tout, avec toutes ses imperfections, l'Inde reste une démocratie, ce que n'est pas la Chine. C'est-à-dire donc que pour imposer à l'ensemble de la population d'une manière aussi coercitive une politique de l'enfant unique, il faut être une dictature.
Ouais.
C'est aussi c'est simple
ce qui
que ça.
Passe. Oui,
ce qui s'était passé dans les années 70, où sous le gouvernement d'Indira Gandhi, on avait commencé à faire des rafles des populations les plus pauvres, les intouchables, pour les stériliser de force. Ça avait été un énorme scandale qui avait coûté son poste pendant plusieurs années à Indira Gandhi, avant qu'elle ne revienne au pouvoir. Ensuite, elle sera assassinée quelques années après pour une autre raison, mais ça avait été un énorme scandale en Inde, qui disait, nous on est l'Inde, on n'est pas la Chine, on est un pays démocratique, on va pas imposer ça, on veut pas...
Une situation que la Chine n'a pas connue finalement, puisque vous le disiez, ça dépend du régime, il n'y a pas eu de...
Je pense que c'est lié, alors sans vouloir essentialiser la culture et la société chinoise, il y a de toute évidence un déterminisme, je dirais, culturel qu'a évoqué justement mon collègue tout à l'heure en introduction. Savoir que vous avez une société, pour dire les choses simplement, confucéenne.
Oui.
C'est-à-dire que vous faites beaucoup d'enfants et surtout des enfants mâles pour renouveler les générations et surtout pour que les parents soient aidés durant leurs vieux jours.
Ça,
c'est absolument fondamental. Hein. Ça fait partie, je dirais, des principes séculaires profondément enracinés dans les mentalités chinoises. Et l'autre fait, encore une fois, est de nature profondément politique. C'est-à-dire que la Chine n'a jamais été une démocratie. Et donc, le pouvoir du prince impose aussi un contexte de contrainte au nom justement d'une certaine interprétation d'un développement économique qui effectivement a réussi de ce point de vue-là.
Est-ce qu'on peut dire finalement que cette limitation à des naissances pour la Chine, c'est un échec ?
Oui et non, en tout cas, sur le court terme, ça n'a pas été un échec. Maintenant, le gouvernement, fidèle à sa politique interventionniste et volontariste, voudra relancer la machine, sauf que la population, non pas par réticence, mais bien parce que ses modes de comportement, de consommation même, ont radicalement changé avec les générations précédentes, la population ne suit pas. C'est-à-dire que vous aurez beau permettre à la population de faire autant d'enfants qu'elle le veut, finalement, de ce point de vue-là, la société chinoise se range à la norme, notamment occidentale, c'est-à-dire qu'on tend de plus en plus vers une famille nucléaire.
Oui.
D'autant plus que la Chine est maintenant beaucoup plus ouverte sur le monde extérieur depuis, avec l'ouverture de Deng Xiaoping.
Donc ce n'est pas un échec pour vous non plus, Yves Bocquet ?
Ça a été d'une façon une certaine réussite, parce que ça a permis à la Chine de juguler les problèmes d'alimentation de la population. Dans les années 50, on avait des propos de Mao disant que une personne en plus, c'était deux bras en plus. D'autres disaient, mais attention, deux bras en plus, ça fait aussi une bouche de plus à nourrir. Donc là, la Chine a, mieux que l'Inde, plus vite que l'Inde, réglé le problème des famines, même si localement, il peut encore y avoir un petit peu quelques petites difficultés. Mais grosso modo, la Chine s'est débarrassée des famines parce que maintenant, les Chinois mangent à peu près correctement, mieux en ville que dans certaines campagnes reculées. Hein, mais donc la Chine a mieux géré ça que l'Inde. Hein, donc dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a un certain succès de la politique. Et puis, bon, on a beaucoup de Chinois ont trouvé des emplois. Cela dit, une des choses dont on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a 100 à 150 millions de ruraux qui sont venus s'installer dans les villes, hein, cette population flottante, bon, qui contribue peut-être aussi à la baisse de fécondité, parce que ce sont souvent des hommes qui viennent sur les chantiers, leur femme est à la campagne, dans une province reculée. Elles sont dans le Ranhui, dans le Sichuan, alors que les hommes, eux, travaillent à Pékin, à Shanghai, pour construire les immeubles pour les Jeux Olympiques, les grandes tours de Shanghai, etc.
Oui. Et sur le plan sociologique aussi, vous en parliez, donc, cette tradition confucienne, je crois que je ne l'ai pas très bien dit, mais vous m'avez compris, donc, de l'enfant unique. Qu'est-ce que ça a engendré également dans la société chinoise ?
Eh bien, je dirais que c'est un réflexe de survie. Alors, on met un nom, finalement, sur une réalité qui est comparable, a priori, à toutes les sociétés traditionnelles. C'est-à-dire que le réflexe de survie, c'est d'avoir, effectivement, beaucoup d'enfants pour assurer...
La descendance,
et puis des lendemains qui restent toujours incertains. Et effectivement, ce slogan des années Mao, un enfant en plus, c'est deux bras en plus, a engendré, cette extraordinaire croissance démographique qui était en même temps... alarmante pour le régime, mais ce régime, et surtout à l'époque de Mao, entretenait finalement une certaine ambiguïté, comme n'importe quel autre régime communiste, dans sa compréhension du phénomène démographique. Je pense par exemple à la Roumanie de Ceausescu,
oui.
Qui a eu aussi une politique pronataliste, parce que l'autre grand slogan de l'époque, de la guerre froide, c'était de dire « plus nous aurons de combattants, mieux nous pourrons résister justement au monde capitaliste et occidental ».
Mais il me semble que les conséquences n'étaient pas très favorables, in fine.
Ah, certainement, ça c'était bien.
En Roumanie, ça a donné naissance, c'est le cas de dire, à beaucoup d'enfants qui n'étaient pas désirés, qu'on a retrouvés dans des orphelinats, hein, parce qu'on a forcé en fait les familles à avoir des enfants qu'elles ne voulaient pas. Et donc maintenant, la Roumanie a dû gérer ce problème-là, donc avec beaucoup d'enfants qui étaient confiés aux services sociaux de la Roumanie.
7 milliards de voisins avec une émission consacrée à la natalité en Chine, à la suppression des contrôles de naissance. On en reparle avec nos invités pour le moment, musique avec The Shanghai Restoration Project.
Splotches of snow, unpleasantly cold, stick to the face. Colored onion sprout above, but we just keep pushing the pace. Tread in our boots, pushing the pace. Ever since I could remember, we've been chained to these skis. Do as they please, fly off a ramp and bloody your knees. Treat the wound, but not the disease. But now we seek a cure, and in the stone of white, rest a cozy little store. Give a gate a push, slip inside a warm wooden cottage, pick a bench. You don't need a number, or be a member, have some honey and tea. Be sure to let it steep, and when you taste the difference, you will find a way to be free from the
bouncers and judges, hypnotists, sensationalists, playing silly games to keep us on track so we forget everybody ends up at the same final stop. Gotta get a handle on tuning your own clock.
The Shanghai Restoration Project dans 7 milliards de voisins, 7 milliards de voisins, émission consacrée aujourd'hui à la suppression du contrôle des naissances en Chine. Nous sommes avec Emmanuel Linco, Yves Boquet au téléphone, un peu plus tard Catherine Capdeville. Alors, ce qui est intéressant de noter aussi par rapport à cette nouvelle politique de contrôle des naissances, c'est que pendant longtemps, notamment en Occident, on parlait beaucoup du péril jaune. On se disait, comme ils sont très nombreux, les Chinois, ils vont un peu envahir le monde. Du coup, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Emmanuel Linco?
Oui, je pense que c'est important, effectivement, de rappeler ce mythe qui a été récurrent dans l'histoire des relations Chine-Europe, notamment. Ils vont nous envahir, hein, grosso modo. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir justement quelles peuvent être les perceptions des populations situées sur les marges de la Chine. Je pense, dans cette région sous-peuplée démographiquement, qu'est la Sibérie, ou oui, bien l'Asie centrale, et la perception est souvent négative, c'est-à-dire que ce mythe du péril jaune, mm-hmm, précisément dans ces régions-là, est extrêmement prégnant. Ils vont nous envahir, ils vont voler nos
terres. Encore aujourd'hui ?
Ah oui, et plus que jamais. Par exemple, quand vous allez au Kazakhstan, mm-hmm, parce que le Kazakhstan, mais aussi la Fédération de Russie sur ses marges orientales, donc en Sibérie, a cédé à bail un certain nombre de terres pour des paysans chinois, les populations locales sont souvent spoliées et le ressentent plutôt mal, si vous voulez. Donc ça reste quand même dans l'air, c'est présent de ce point de vue-là. Voilà.
Mmh. Yves Boquet, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, on a dans certaines villes frontalières entre la Sibérie et le nord-est de la Chine, des zones économiques spéciales, maintenant où ce sont des Chinois qui s'installent et qui ont, avec un développement de l'emploi chinois du côté russe. Et donc là, les Russes se sentent un petit peu envahis. Alors, l'idée du péril jaune, on l'avait aussi aux États-Unis au 19e siècle, avec tous les ouvriers chinois qui avaient été recrutés à très très bas prix, ce qui avait amené d'ailleurs les États-Unis à adopter des législations contre les immigrants chinois dès les années 1880.
Mmh. Justement, vous en parliez des États-Unis, où il y a une communauté asiatique et chinoise très importante, dans le monde aussi, dans le reste du monde. Est-ce que justement cette politique de l'enfant unique était adoptée aussi
Alors, non,
dans les diasporas ?
Non, évidemment, mais justement, ces diasporas ont cru, se sont développées indépendamment, évidemment, de cette mesure de la politique de l'enfant unique. Et vous avez certaines régions du monde, on évoquait à l'instant effectivement les États-Unis, je pense par exemple à la Californie, où 30% de la population est d'origine asiatique et en grande partie chinoise. Mmh. Donc ça aussi, c'est quand même assez important, c'est-à-dire que le phénomène démographique totalement indépendant par rapport justement à la politique de l'enfant unique est un phénomène de fait, de facto, universel. C'est-à-dire que des diasporas chinoises, effectivement, il y en a sur les 5 continents, et de plus en plus, notamment en Afrique aussi,
oui,
ça c'est évident.
Tout à fait. Un point sur ce sujet.
En fait, diaspora chinoise, je ne sais pas si en Afrique les Chinois s'installent tellement, ils viennent travailler. Il y a des usines chinoises qui sont là.
Oui.
Les Chinois font le chantier et ensuite rentrent en Chine. Et
mais ils viennent avec leur famille.
Dans un pays comme l'Algérie, on a eu les Algériens d'ailleurs sont assez mécontents parce qu'il y a la population algérienne. Nous on a du chômage en Algérie et ce sont des Chinois qui viennent travailler. Et aujourd'hui un petit peu la même chose aux Philippines avec les Philippins qui n'ont pas assez de travail et puis de plus en plus de Chinois qui viennent travailler aux Philippines. Donc là, il y a une certaine réticence à la venue de Chinois dans différentes régions du monde.
Alors messieurs, nous sommes également en ligne avec Catherine Capdeville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue à l'INALCO, spécialiste de la société chinoise. Catherine Capdeville, ce contrôle des naissances, on l'a compris, concerne davantage la population urbaine chinoise, tout comme la sélection du sexe de l'enfant qui privilégie donc les garçons. Sur le plan sociologique, qu'est-ce que ça engendre une éducation de l'enfant roi, par exemple ?
Oui, on peut dire cela. On a parlé des petits empereurs et petites princesses. Donc des enfants choyés, gâtés. Et en fait, il y a vraiment un mouvement dans la société chinoise qui est d'essayer de produire des enfants de meilleure qualité. Hein. C'est le terme qui est employé en chinois. Donc c'est pour ça aussi qu'on veut moins d'enfants, parce qu'on veut donner plus de choses à ceux que l'on a. Voilà.
Okay. Et une sélection du sexe de l'enfant qui déséquilibre du coup la société chinoise, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, on constate aujourd'hui. Comment on se marie dans ces conditions en fait ?
Alors attendez, d'abord juste une chose, il ne faut pas croire que les Chinois veulent absolument que des garçons. Moi on m'a dit de nombreuses fois, mais on voudrait un garçon et une fille. Alors évidemment quand c'est...
Mais on vous a dit ça dans les milieux ruraux ?
Oui, dans les milieux ruraux, on cherche aussi à avoir une fille. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, on veut une fille pour pouvoir marier son fils.
C'est ça.
Il y avait autrefois des pratiques, des échanges de mariage qui étaient extrêmement courants. Et donc, il était aussi important d'avoir des filles.
Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on peut ajouter également que dans les campagnes, il y a une tradition de l'adoption ? Ce qui paraît complètement fou, puisqu'on était dans une politique de contrôle des natalités.
Oui, alors, comme on vous l'a dit, la politique avait été quand même assouplie depuis déjà une dizaine, voire une quinzaine d'années, et de nombreuses familles pouvaient éventuellement avoir un deuxième, ou même un troisième ou un quatrième, soit en ne déclarant pas les naissances en numéraire, soit en payant des amendes. Mais quand une famille avait par exemple 4 filles, évidemment ça faisait trop de filles. Donc ce qu'on faisait, on les donnait en adoption. Et donc il y avait une grande circulation de tous ces enfants entre les familles. C'est-à-dire que traditionnellement dans la société chinoise, les enfants ne sont pas considérés comme un bien individuel, mais comme un bien collectif. Et donc les enfants circulaient, on les appelle des enfants circulants en anthropologie. Oui.
Et les femmes aussi circulaient, je crois, aussi pour aller se marier dans les pays voisins. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça,
alors,
Catherine Capdeville ?
Oui, il y a aussi ce qu'on appelle des mariages mixtes ou des mariages internationaux. Et comme la Chine, par exemple, la Chine manque de femmes, eh bien, il y a beaucoup de paysans chinois qui vont pouvoir se marier avec des femmes venant d'Asie du Sud-Est, du Vietnam... etc. Et voilà. Donc, il y a eu des échanges entre les filles.
Vous le disiez, il y a eu des exceptions, ça a été progressif. La Chine a abandonné sa politique de l'enfant unique en 2016, en autorisant donc les couples à avoir deux enfants. Pourtant, ça n'a pas stimulé la croissance de la population. Ça a un peu augmenté en 2017, ça a stagné. Et puis, je le disais tout à l'heure, en 2018, ça a baissé. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ?
Oui, ça ne fonctionne pas parce que la Chine est en train d'atteindre à des standards de pays développés et modernisés où la norme, ce n'est plus les grandes familles, c'est les familles de taille relativement réduite avec un ou deux enfants. Et donc la Chine aussi arrive à ce niveau-là actuellement. Et les Chinois ne désirent plus avoir trop d'enfants parce que c'est évidemment c'est trop difficile à gérer. Par contre, ils veulent avoir des enfants de meilleure qualité auxquels ils vont pouvoir donner tout ce qu'ils ont. Et
ça veut dire quoi de meilleure qualité en fait ?
Voilà,
tout à l'heure, vous le répétez.
Exactement, c'est le terme chinois qui est voilà, c'est tout le jeu. Hein. Et donc, c'est des enfants qui seront mieux éduqués, qui auront suivi tout un tas de cours de ceci, de cela, qui vont aller apprendre l'anglais dès la maternelle, qui vont aller faire des voyages à l'étranger, qui vont faire du piano, qui vont, etc. Et voilà, donc c'est des enfants
qui ont beaucoup de choses à faire. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose, voilà. Emmanuel Vincourt ?
Non, mais là aussi, vous avez un fait chinois néo-confucéen, c'est-à-dire que c'est une société hyper performante et compétitive. Et effectivement, c'est la culture de toute l'Asie sinisée. Donc en Corée,
voilà, ça ressemble à ce qu'on a en Japon ou en Corée.
Chose. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, on cherche effectivement à privilégier l'éducation d'un enfant et donc les familles se saignent véritablement pour que l'enfant réussisse. Donc on est dans une société hyper compétitive de ce point de vue-là aussi. Donc cette politique de l'enfant unique Et finalement, le pli, entre guillemets, naturel pris par les familles chinoises que de n'avoir qu'un enfant naturellement, voire pas du tout, est lié justement à cette hyper-compétitivité que connaît la société chinoise, avec évidemment toutes ses dérives. Hein. C'est-à-dire qu'on sait aussi par ailleurs, même si c'est un autre sujet, que le taux de suicide chez les jeunes enfants est en train d'exploser véritablement.
En ce moment. Parce que justement, ils sont trop...
Trop poussé, justement, à la réussite sociale.
D'accord. Oui, Yves Bocquet ?
Oui, il y a un autre facteur, je pense, qui est très important, c'est qu'avec la fin du système communiste de l'époque de Mao, c'est le bol de riz en fer, hein, où l'État assurait un certain nombre de services, ce bol de riz en fer, il s'est un petit peu écroulé. Par exemple, le coût de la médecine est beaucoup plus cher maintenant. Oui. Et donc les gens s'ils ont beaucoup d'enfants, et les enfants qui sont très jeunes, il faut aller voir le docteur assez souvent. Donc là, la médecine coûte très cher et les gens n'ont pas les moyens d'avoir maintenant, d'avoir, en particulier dans des grandes villes comme Shanghai, comme Pékin, comme Canton, c'est de plus en plus cher, le logement est cher, et donc les gens disent, bon, font leur calcul aussi. Bon, avec 3 ou 4 enfants, ça sera trop cher.
L'éducation, le coût de la vie est cher, et je crois que c'est l'une des raisons. Merci Catherine Capdeville pour cet éclairage.
Merci.
Oui, le coût de la vie globalement est cher, donc je crois que c'est l'une des raisons aussi principales qui pousse...
Oui, Shanghai est devenue une des villes les plus chères du monde.
Oui, et puis tous les secteurs économiques, y compris dans le domaine, c'est vrai, de la santé, de l'éducation, se privatisent, donc tout devient excessivement cher. Dans un pays, là aussi, autre donnée fondamentale, où vous n'avez pas de sécurité sociale.
Oui.
Donc il vous arrive un pépin, vous êtes obligé, il faut payer, y compris évidemment pour vos enfants, donc il n'y a pas du tout de prise en charge, alors qu'il y en eut dans des milieux, je dirais, assez favorisé par le système communiste, au nom justement de l'idéologie communiste, notamment les milieux ouvriers, mais c'est absolument plus le cas aujourd'hui.
Ouais. Alors par exemple, pour le milieu ouvrier, il y a une région qui est tout à fait intéressante, c'est le nord-est de la Chine, l'ancienne Mandchourie, c'est 3 provinces qui ont des fécondités extraordinairement basses, qui étaient descendues en dessous de 0,7. Et donc cette région, c'est une région d'industrie lourde qui était favorisée à l'époque, dans les années 50-60, c'était l'ouvrier qui était... C'est des régions où la politique de l'enfant unique a été adoptée de façon extrêmement stricte. On disait aux gens, si vous avez un deuxième enfant, vous serez viré de votre entreprise. Donc les gens ont dit, pourquoi être viré ?
Je voulais l'évoquer un petit peu plus tard. Vous parlez au passé, mais on le dit toujours. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ce n'est pas un peu trop tard là, pour faire ce virage à 180 degrés aujourd'hui ?
C'est
évidemment compte tenu de tout ce qu'on vient d'évoquer.
Trop tard, c'est la thèse abordée par l'une de nos collègues, Isabelle Attané, dont il faut lire l'ouvrage « La Chine à bout de souffle », qui est un ouvrage tout à fait intéressant, qui montre effectivement que la Chine et son gouvernement arrivent à un seuil critique.
Oui.
Donc ça va être l'un des grands enjeux.
Surtout que ça fait 10 ans que certains experts alertent en fait les institutions.
Tout à fait. En fait, c'est... Je dirais l'un des problèmes majeurs qui se pose en termes d'échéance pour le gouvernement chinois, avec par ailleurs la récession de l'économie chinoise. Mm-hmm. Donc à tout point de vue, les voyants sont au rouge.
Oui.
Donc l'année du cochon, n'est-ce pas, que nous nous apprêtons
d'accord,
à célébrer,
je ne le savais pas, mais merci pour l'information.
Eh bien, risque d'être une année a priori difficile.
Mm-hmm. Oui, surtout que ça va pas changer finalement. C'est la législation qui change, mais les comportements des habitants ne changeront pas.
Évidemment.
On en parlait, oui Yves Bocquet ?
On le voit dans d'autres pays, par exemple à Singapour, hein, que souvent la Chine a essayé de s'inspirer. À Singapour aussi, il y a une fécondité qui est très faible. Et le gouvernement singapourien, qui voit la population vieillir, essaye d'encourager les Singapouriens et les Singapouriennes à avoir des enfants. Les gens, ils sont trop pris par leur boulot, et Singapour, c'est trop cher. Le gouvernement singapourien n'arrive pas non plus à relever de façon significative la fécondité. Donc du coup, c'est un pays qui a maintenant fait appel à beaucoup de migrants. Il y a un tiers d'étrangers à Singapour.
Oui, mais on l'évoquait tout à l'heure également... Quand vous le disiez, voilà, les institutions veulent faire changer les choses, mais les femmes, elles, ne souhaitent plus avoir plus d'un enfant. Les jeunes couples ne veulent parfois ne pas avoir d'enfant du tout. Et puis on constate aussi que dans les sociétés, quand vous êtes enceinte, il y a des sanctions à votre encontre.
Oui, bien sûr. Mais
donc il y a un paradoxe, c'est quelque chose
là
qui va pas.
Là aussi, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Hein, la Chine suit finalement une tendance mondiale et selon la formule consacrée aussi, la meilleure pilule contre la meilleure pilule contre la croissance démographique, c'est le développement économique. C'est-à-dire que concrètement, les gens en Chine ont dépassé un certain seuil de bien-être matériel. Mmh. Donc pourquoi continuer d'avoir autant d'enfants que les générations précédentes alors que l'on cherche, il faut bien recontextualiser les choses, dans une société qui a été brutalisée comme la société chinoise, oui. On cherche à rattraper le temps perdu, c'est-à-dire qu'on veut consommer culturel,
oui.
On veut voyager. On veut rattraper le temps perdu, encore une fois. Donc,
on veut prendre soin de soi, quoi.
Exactement. Et là, vous ne croyez pas si bien dire. C'est-à-dire que prendre soin de soi, c'est une façon aussi, peut-être, de voir émerger à la fois une nouvelle posture sociale en Chine, mais aussi une tendance de fond, je dirais, d'un point de vue des comportements, c'est-à-dire la naissance véritablement de l'individualisme. Mmh. Je compte en tant que personne, voyez. Et donc, comme le disait notre collègue, un enfant qualitatif espéré, un enfant collectif, c'est ainsi qu'on le crée, qu'on le concevait, qu'on l'imaginait. Tout cela est peut-être déjà derrière nous en Chine, c'est-à-dire qu'on pense avant tout à soi.
Mais comment va faire le gouvernement? Et d'ailleurs, on se demande pourquoi il ne prend pas des mesures plus drastiques comme il l'a fait du coup il y a 40 ans.
On pourrait y venir, les savoir, hein, avec Xi Jinping qui est au pouvoir. Cet homme ne cesse de nous étonner depuis son arrivée brutale également au pouvoir en 2012.
Hein. Voilà, et Xi Jinping qui renforce progressivement son pouvoir personnel, son culte de la personnalité, qui maintenant a fait adopter une législation comme quoi il peut être éventuellement réélu un petit peu à perpétuité. Alors que les deux précédents présidents avaient fait 10 ans et puis après avaient laissé la place. Donc Xi Jinping, apparemment, n'a pas trop envie de laisser la place.
Oui, oui. Mais peut-être
on renforce un culte de personnalité autour de sa personne depuis quelques mois.
Oui, mais peut-être que justement, si le gouvernement ne prend pas de mesures drastiques, c'est pour ne pas avouer un petit peu une culpabilité, une certaine culpabilité.
Oh non, je pense pas
qu'il
faille psychologiser avec le régime communiste chinois. Non, c'est... d'ailleurs, on le voit bien dans d'autres domaines. Je pense par exemple aux crises maoïstes intenses qui ont traversé toute la Chine, le mouvement des sans-fleurs, le grand bond en avant et la révolution culturelle. Jamais le régime communiste chinois ne s'est excusé pour les millions de morts provoquées par ces différentes crises. Donc, par rapport également à toutes ces familles qui ont été traumatisées du fait de l'imposition de la politique de l'enfant unique, on imagine guère le parti communiste chinois s'est excusez pour autant, vous voyez.
Oui.
Encore une fois, c'est un monstre froid, l'État parti. Hein, donc, on imagine mal ce genre de choses. En revanche, ce qui est non pas de la science-fiction, mais lié justement à un certain état politique d'un renforcement des pouvoirs, comme le disait à l'instant mon collègue, c'est pourquoi pas imaginer une imposition inverse, c'est-à-dire de nouveau une politique pronataliste. Vous faites des enfants ou alors vous allez être sanctionné.
Avec des mesures, des incitations financières, des congés peut-être plus longs.
Parce que de ce point de vue-là, la machine bureaucratique chinoise en a les moyens.
Oui, elle fonctionne bien. Et je me posais aussi une question, elles en ont peut-être pas un peu marre, les femmes chinoises, qu'on leur dise toujours ce qu'elles doivent faire, soit d'un côté ne avoir un seul enfant, maintenant faire plus. Yves Bocquet.
Oui. C'est toute la question du rapport de l'État à l'individu. Hein. Est-ce que l'individu a son libre choix ou est-ce qu'il va se faire imposer dans ce qui est le plus intime, hein, c'est faire des enfants. Bon, ça, c'est... Est-ce que l'État peut venir dans votre chambre à coucher? C'est tout un problème philosophique.
Oui. Surtout qu'il y a un article qui propose une taxe sur les couples de moins de 40 ans.
Oui, absolument. Absolument.
C'est ça.
Mais ce qui est intéressant aussi à travers nos débats, c'est de voir qu'il y a aussi une cause féministe hein, qui se développe.
Mais oui, justement, suite à cette taxe, sur le site du microblogging Weibo, il y a une jeune chinoise qui s'est exprimée en disant « Alors maintenant, je reçois une amende parce que je suis célibataire. » Et quelqu'un d'autre a ajouté « Il n'y a pas si longtemps, on nous forçait à avorter et désormais, je dois payer pour un second enfant que je n'ai même pas eu. » Donc oui, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui naît en Chine.
Tout à fait. Et on touche là véritablement à des choses extrêmement sensibles, comme le disait mon collègue. C'est-à-dire, donc, on touche à l'intime, véritablement. Et il ne faut pas oublier, justement, que la famille a été, jusque dans les années 60, finalement, le dernier rempart d'une résistance de la société civile, appelons-la ainsi, par rapport à la dictature communiste. Et donc, ce dernier rempart a sauté depuis fort longtemps. Mm-hmm. Il n'y a plus véritablement moyen pour la société civile de résister comme elle le fit jusqu'alors. Et donc, cela engendre, je pense, de nouveaux comportements, notamment comme la cause féministe, où on voit de plus en plus de femmes. Je pense, par exemple, à Routier, qui a soutenu un certain nombre de mouvements féministes extrêmement intéressants, qui protestent contre les abus sexuels, bien sûr, mais aussi l'utilisation de la femme comme... je dirais une usine à production de bébés, quoi. Ça, ouais. C'est clair.
Quand on regarde le leadership chinois, il est extrêmement masculin.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et bientôt le mot de la fin, enfin c'est maintenant d'ailleurs, par rapport justement aux solutions qu'il pourrait y avoir pour pallier à ce vieillissement de la population chinoise. Mot de la fin.
Le mot de la fin, je dirais, c'est...
solution peut-être que...
La solution, c'est sans doute une politique plus volontariste.
Oui,
je ne vois pas d'autres moyens parce que la tendance lourde, encore une fois, c'est un vieillissement général de la population.
Ouais. Yves Bocquet, rapidement.
Voilà, c'est aussi la question pour la Chine de mettre en place un système de protection sociale et de, pour les personnes âgées. Jusqu'à présent, la sécurité sociale. La retraite pour les personnes âgées, c'était les enfants. Mmh. Donc là, maintenant, la Chine est obligée d'y penser. En fait, ce n'est pas le seul pays. Le Japon est confronté à ça, la Corée, le Vietnam également, la Thaïlande. Hein, c'est un phénomène assez général dans beaucoup de pays d'Asie qui sont en train de vieillir rapidement parce qu'ils ont vu la fécondité baisser. Alors, en Chine, ça a été par des manières très, très drastiques. On parlait tout à l'heure des droits des femmes. Dans l'application de l'enfant unique, il y a eu des cas d'ouvrières qui étaient obligées de déclarer leurs règles à leur chef d'atelier, hein, pour qu'on leur dise attention avec ton mari, faut faire attention, c'est bien. Elles avaient leur cycle mensuel qui était connu du chef d'atelier.
Donc
pour une pression très très forte. Donc ça, c'était, pour beaucoup de femmes, c'était inacceptable. Mais les femmes, bon, où est-ce qu'elles sont dans la direction chinoise, hein? On ne voit que des hommes.
Mm-hmm. Hein. Oui,
le leadership et la société chinoise restent à la fois paternalistes, pour ne pas dire machistes, hein, ça c'est évident. Donc les choses changent, mais très lentement, il faut bien le dire.
Oui. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous, Emmanuel Linco, Yves Bocquet et puis tout à l'heure Catherine Capdeville. On remercie également France Bleu Bourgogne pour notre duplex. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azurwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez écouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons du dur métier de parent. À demain donc et prenez soin de vous. We'll be right back.